Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Bonjour et bienvenue à l'actualité économique du jour. Ce rapport qui a été rendu public sur le bilan du bouclier tarifaire. Eh bien, le bilan, il est positif. Pour le faire très court, il vaut peut-être mieux payer très cher aujourd'hui pour éviter que tout s'effondre, plutôt que de payer peut-être beaucoup plus cher et beaucoup plus longtemps pour tout reconstruire si l'ensemble de l'économie était allée au tapis, que ce soit les entreprises ou les emplois. On en parle dans un instant. Le rapport d'ailleurs qui dit qu'il faut continuer en 2023 comme on le fait actuellement. Elisabeth Borne veut accélérer France 2030. Elle veut que 20 milliards d'euros sur les 54 milliards prévus soient engagés dès l'année 2023. Et puis la Grande-Bretagne, c'est vraiment la volte-face par rapport à l'époque. Liz Truss bascule réellement dans l'austérité. 54 milliards de livres de consolidation budgétaire sont annoncés et sur ce total, 24 milliards de livres sont tout simplement des hausses d'impôts. L'inquiétude des industriels, ils demandent à Paris, à Berlin, de réagir fermement face à l'Inflation Reduction Act des États-Unis. Ce dossier sur lequel Bruno Le Maire est engagé déjà depuis quelques jours. On peut d'ailleurs se poser la question au sujet justement de l'ensemble des boucliers tarifaires qui ont pu être mis en place après la demande. Est-ce qu'il ne faut pas en faire davantage pour l'offre, notamment après la publication du plan allemand à 200 milliards d'euros. Bonjour Philippe Askenazi.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes économiste au CNRS, vous avez publié Partager les richesses chez Odile Jacob. Xavier Jaravel, bonjour.
Bonjour.
Professeur à la London School of Economics. Et Xavier Rago, bonjour.
Bonjour.
Président de l'OFCE, vous avez publié Civiliser le capitalisme chez Fayard. Alors, un petit mot avant de commencer sur les cinquièmes rencontres de l'avenir qui se déroulent à compter d'aujourd'hui jusqu'à dimanche au Palais des Congrès de Saint-Raphaël. C'est un événement organisé tous les ans par Nicolas Bouzou, que vous connaissez bien ici. Donc il y aura évidemment des conférences sur des quantités de thèmes, l'avenir du nucléaire, l'Ukraine, même l'état du journalisme aujourd'hui, la santé, bien sûr, l'économie. On pourra y croiser des gens comme Luc Ferry, David Pujadas, Olivier Babot, que vous connaissez bien sûr, Robin Rivaton, Emmanuel Combes, Michel-Édouard Leclerc, Pierre Gattaz. Il y aura aussi Frédéric Ancel ou encore Michel Alliot-Marie. La liste n'est pas exhaustive, c'est gratuit. On peut s'inscrire sur rencontre, au pluriel, tradeunionavenir.com. Le bouclier tarifaire, je vous donne les principaux éléments qui ressortent de cette étude signée de l'Institut des politiques publiques et du CEPREMAP, qui est l'Observatoire de recherche de l'économie de Paris. Il fallait faire le bouclier tarifaire, c'est le meilleur compromis possible. On a limité l'inflation, on a évité l'effet de second tour, on a préservé la consommation des Français, on a évité un creusement des inégalités, car en plus de ce bouclier, s'ajoute pour les plus pauvres le chèque énergie, par exemple, et on a sauvé 1,7 point de croissance en 2022. Il faut continuer en 2023, à nouveau pour limiter l'inflation et à nouveau pour sauver en partie la croissance. Xavier Rago, qu'en pensez-vous? Je me souviens que sur ce plateau, vous m'aviez dit probablement il fallait faire ce bouclier, il faudra continuer d'ailleurs.
Oui, je pense qu'on partage certaines des analyses, peut-être moins les montants que ceux évoqués.
Alors, j'ai donné aucun chiffre là.
Oui, voilà, bon. Ils ont des montants élevés, mais grosso modo, sur cette question énergétique, il y a deux approches. Il y a une approche, je dirais, macroéconomiste et une approche de microéconomiste sur l'utilisation efficace de l'argent public. Là, ce qu'on voit, c'est face à ce choc colossal sur l'énergie, moi, je suis stupéfait que ça passe comme une lettre à la poste, le fait que l'État décide de contrôler un prix, il décide de contrôler le prix de l'énergie en disant, voilà, tous les ménages auront, et les petites entreprises et TPE, auront des hausses des prix de 15%. Donc, je contrôle un prix. Mmh. On a une socialisation complète du marché de l'énergie et de l'électricité.
Oui, oui.
Donc, après la socialisation du marché du travail dans le Covid, on a une socialisation du marché de l'énergie. Je pense que cette idée-là, qui au départ était une spécificité française, hein, je tiens à le dire, elle se diffuse en Europe. Et on a vu, et vous avez parlé de l'initiative allemande de 200 milliards. Les Allemands, au début, ils n'étaient pas convaincus, mais maintenant, ils y vont avec beaucoup de marge budgétaire. Dans l'urgence, c'était une bonne idée. C'était une bonne idée et effectivement, ça a permis d'isoler beaucoup les ménages de ce choc énergétique. Et donc, les ménages ont continué à consommer en grande partie. Et donc, ça a soutenu la croissance de l'ordre de 1 point, 1, 2. Bon. Donc, et ça réduit l'inflation de 2 points.
3, dit l'INSEE. Hein.
Alors, 3 sur 2023.
D'accord.
Effectivement. 2023, on est à peu près d'accord. C'est à peu près, il a augmenté dans la dimension budgétaire en 2023. C'est 3 points d'inflation en moins. C'est colossal, 3 points
d'inflation. C'est colossal, non, ça c'est colossal.
Donc ça change tout. C'est bien pour la France parce qu'on avait trop d'inflation dans le passé par rapport à l'Allemagne, je tiens à le dire. Donc ça nous permet de rattraper un peu de d'écart de niveau des prix. Bien. Ça, c'est le tableau idyllique en disant, voilà, l'État... Maintenant, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Ça fait 45 milliards, c'est beaucoup d'argent.
Donc alors, 45, mais attends, parce que ça décevait. On dit 110 quand on regarde sur 3 ans.
Oui, moi je dis 45, c'est le budget 2023.
D'accord.
Dans le budget,
oui,
c'est okay. Pas sur 3 ans, ouais. Effectivement, il faut être précis sur les chiffres. C'est la budgétisation 2023.
Oui, c'est monumental, oui, c'est voilà. Monumental.
C'est 2 points de PIB. Donc, quand même, on peut se dire que avec autant d'argent, on pourrait peut-être faire mieux si on ciblait un petit peu plus sur les pauvres et les classes moyennes. Et de ne pas aider tout le monde quand même à ce point-là.
Parce d'accord.
Que, voilà, c'est l'État, grosso modo, je vais vous révéler un... c'est pas un secret, j'étais sur les routes de Normandie vers la Manche, peut-être avec beaucoup d'auditeurs dans les bouchons. Il y a des énormes SUV, il y a d'énormes voitures. Je me dis, est-ce que c'est légitime de faire ce bouclier, de financer les gros consommateurs qui sont sur les routes voilà. Donc peut-être, il faut être plus efficace maintenant sur 2023, prendre le temps de réfléchir, cibler sur l'efficacité économique, parce qu'au final, c'est la France qui va payer cette facture énergétique par des impôts futurs. Ciblons mieux peut-être pour l'avenir.
Elisabeth Borne dit ce matin, confirme qu'il y aura une aide pour les gens qui travaillent en 2023 sur le carburant, que ceux qui travaillent et la moitié des travailleurs les moins riches qui ont une carte grise.
Pour être précis, on arrête la subvention aux fossiles, à l'essence en 2023. Donc ce qui va rester en 2023, les 45 milliards, c'est juste l'électricité.
Hein. Oui. Mais on n'arrête pas totalement. La moitié des ménages français seront éligibles à ce chèque carburant. Xavier Jaravel, par rapport à ce qu'on a dit, et puis Philippe Askenazi, sur finalement le bilan plutôt positif. Parce que l'idée, c'est le contrefactuel. Où en serions-nous si nous n'avions rien fait ?
Oui, c'est vrai que c'est peut-être, du point de vue de l'analyse économique, c'est quand même un peu surprenant que le grand message de l'étude, ce soit que c'était le meilleur compromis possible.
Ah là,
je sais bien. Peut-être juste pour replacer les choses dans la perspective européenne, d'autres pays, Xavier Rago le disait il y a un instant, ont aussi soutenu les ménages, notamment l'Allemagne, mais avec des approches très différentes.
C'est ça.
Et l'idée globale, c'est de dire qu'on peut donner une aide qui est davantage ciblée et qui aussi préserve le signal prix pour, par exemple, les derniers mégawattheures consommés. Et il y a plein de manières pragmatiques de le faire. C'est fait en Allemagne. Ils ont lancé un dispositif comme ça. C'était fait dans d'autres pays comme la Belgique ou des régions comme la Californie avant. Donc on peut avoir des boucliers tarifaires plus intelligents, plus ciblés, qui permettent à la fois de mieux cibler sur les ménages modestes et de préserver aussi le signal prix, c'est-à-dire que pour au moins les ménages plus aisés, vous aurez une incitation à consommer moins et ça permet aussi de réduire la tension du coup sur la demande et donc, par effet induit, de réduire les prix. Donc, après, l'étude est intéressante parce que c'est utile d'essayer de quantifier, mais il me semble que la question qui doit être posée, c'est qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux. Le contrefactuel, c'est pas aucun bouclier tarifaire. Et même du point de vue purement macroéconomique, de dire on veut soutenir la demande, le fait
que ce soit... Ah, ça c'est une question qui me passionne.
Période actuelle, c'est évidemment un peu surprenant, puisque on a une période d'inflation élevée, on a une période de marché du travail très tendue, donc soutenir la demande n'est pas la priorité du point de vue macroéconomique. Et même si on acceptait l'idée qu'on veut soutenir la demande, être davantage ciblé sur les ménages plus modestes, c'est une meilleure manière de soutenir la demande puisqu'ils ont une propension à dépenser qui est plus élevée. Le ménage aisé va réduire son épargne et donc il y aura un effet sur les inégalités moindres et un effet sur l'activité économique aussi qui pourrait être meilleur avec des dispositifs davantage ciblés. Et juste pour à nouveau insister sur le sujet des inégalités, on sait que ces aides sont en fait régressives quand on parle en euros dépensés, puisque les ménages aisés touchent davantage. Pour l'électricité, par exemple, les deux déciles supérieurs consomment beaucoup plus de 20% de la consommation totale d'électricité. Et donc, on redistribue de fait davantage aux ménages aisés. Donc, on peut dire politiquement, notamment dans la période qui s'est écoulée avec les élections, peut-être que c'était nécessaire, peut-être que c'était utile, mais du point de vue économique, c'est assez difficile de défendre ça. Et donc, il me semble que c'est important dans le débat économique de bien mettre en avant qu'il y a de bien meilleures approches, qu'il faut des aides davantage ciblées, notamment parce qu'à l'Assemblée, on a des partis divisés qui ont chacun des intérêts un peu différents et c'est difficile de s'accorder sur les aides ciblées. Donc, je pense que la responsabilité un peu de l'analyse économique, c'est de bien montrer pourquoi ces aides ciblées sont très importantes. Ciblées pour ensuite préserver les finances publiques et les problèmes de dette.
C'est toujours intéressant d'avoir l'œil purement économique sur des sujets qui sont éminemment politiques également. Alors, il y avait la solution, j'écrase les prix, je socialise les prix, ou alors je laisse les prix s'exprimer et je subventionne directement. Alors, allez, je vais laisser réagir Philippe Askenazi par rapport à tout ce qui a été dit, Philippe. vous laisse partir sur la réflexion qui vous vient.
Oui, partir. Oui. Je pense que c'est quand même en amont intéressant de souligner que ce type d'exercice qui a été présenté hier est un exercice qui a été mené comme l'OFCE par des instituts indépendants.
Oui, indépendants, oui.
Et sont venus lors de la conférence à la fois le président de la commission des finances et le rapporteur général du budget, donc LFI, comme la majorité présidentielle était présente. Parce que par derrière, en France, l'Assemblée nationale n'a pas elle-même l'expertise, la capacité, alors même que c'est elle qui vote le budget, de pouvoir faire ce type de travaux en interne. C'est soit l'État central, en quelque sorte, le Trésor, soit ce sont la nécessité d'organismes indépendants. Donc derrière cela, il y a déjà aussi une question démocratique qu'on ait besoin de passer par ce type de rapport. Alors, je dirais que je pense qu'on est à peu près tous d'accord sur le constat, et ça joue quand même sur le fait que la France actuellement a plutôt une croissance supérieure à celle de l'Allemagne. On n'a pas de décroissance comme en Grande-Bretagne. Il y a eu un soutien aux revenus des ménages, mais quand même aussi une grande partie des ménages qui sont dans la première moitié de la distribution des revenus et qui auraient eu un choc très très important sur leur pouvoir d'achat.
Donc alors, il fallait cibler la demande, c'est ce
alors,
que vous me dites.
Non, alors, et oui, il fallait, le problème c'est qu'on ne sait pas nécessairement faire la chose en France. C'est-à-dire, comment faire pour arriver à avoir une politique ciblée ? Lorsqu'on voit déjà tous les dispositifs d'aide publique et le fait qu'il y a un non-recours important en France, eh bien, lorsque vous faites ce type de dispositif totalement généralisé, effectivement, ça a tendance à être en partie réductif, au sens que ça profite aux plus riches, mais ça profite aussi à tous ceux
qui sont... Si vous faites un truc 100%, vous touchez 100%.
Voilà, oui,
là,
exactement.
Il n'y a pas de doute. Hein.
Derrière, moi je comprends tout à fait, je suis tout à fait dans la ligne de l'argumentaire qu'il faut faire des outils plus ciblés.
Il n'y a pas un économiste qui me dit le contraire.
Voilà, mais est-ce
vous
que
avez un rapport qui vous dit le contraire.
Pardon.
Maintenant vous avez un rapport qui vous
non,
dit
non, alors ce n'est pas exactement
grave.
Vrai. Hein, lorsque oui. on regarde, c'est à nouveau, je pense que la manière dont il est présent, c'est compte tenu de 1. On devait faire vite, compte tenu de la capacité même technologique de la France de mettre en œuvre des dispositifs ciblés. Et je crois que effectivement, maintenant, il faut avoir une réflexion. Comment on fait techniquement pour mettre en œuvre
vous racontez, on ne sait pas en fait cibler un dispositif et être certain que 100% de ceux qu'on cible.
Voilà, c'est ça.
Vont être atteints par le Xavier Rago. Oui.
La mesure idéale, les économistes pour
la mesure idéale. Allons.
Les auditeurs, voilà, c'est que. En fait, il faut aider les ménages.
Oui.
Donc, ce qu'on a essayé d'instruire dans différents cercles, mais c'est trop compliqué, je tiens, toute complexité, elle est essentielle pour éviter le non-recours. C'est qu'il faudrait mesurer la consommation normale de gaz, par exemple, celle en corrigeant du Covid, par foyer, et, disons, 80%, voire 90% de la consommation 2019, on le fait à un prix très bas. C'est-à-dire que j'assure que...
C'est logique allemande, ça.
Oui, et c'est... les 10% autres, mais c'était une proposition française avant. Je vais y revenir là-dessus, parce que malheureusement, je suis pas sûr que ça se fasse en Allemagne. Et les 10% de plus, ils sont au prix de marché. Ouais. C'est-à-dire que vous assurez une consommation des ménages, pour la très grande partie de la consommation, des besoins de base, et puis les dépenses un peu additionnelles pour chauffer un peu plus, vous les payez très cher. Et donc, mais au moins, le besoin fondamental est assuré. Et vous donnez 90% pour les ménages les plus pauvres, et puis pour les ménages les plus riches, 70%.
Excusez-moi, mais techniquement,
voilà.
Alors là, pour le coup, je rejoins Philippe Askenazi. Vous imaginez l'histoire.
Et ça, malheureusement, c'est pas possible. Parce que vous voyez, il y a une double conditionnalité de l'aide sur la consommation passée en corrigeant du Covid et sur le revenu. Donc cette belle histoire que je vous ai racontée, qui a été promue par les 5 sages allemands dans un rapport et qui a fait du bruit en disant il faut cibler, etc. Plein de gens ont essayé de la mettre en œuvre au niveau technique et administratif. Et j'ai hâte de voir, est-ce que les Allemands vont réussir à le faire administrativement? Parce que c'est trop compliqué par rapport à l'ensemble des ménages.
On a bien vu d'ailleurs qu'ils avaient renoncé au chèque carburant il y a quelques mois, parce que c'était l'enfer de faire coïncider les revenus avec la carte grise, l'adresse de l'entreprise, les kilomètres parcourus, est-ce qu'il y a un bus en bas de chez moi? On a laissé tomber et on a préféré faire la ristourne généralisée pour tout le monde. Xavier Jarab, allez-y.
Oui, en Colombie-Britannique, en Californie, ce type de grille tarifaire que vous avez décrivé à l'instant, donc non linéaire avec cet effet, ça existe déjà. Donc, il me semble que le point technique n'est pas du tout indépassable. Et en Allemagne, il me semble que la proposition qui est à l'étude, c'est de regarder en fait la facture d'électricité de l'année dernière. et de vous donner 70% de ce montant-là.
Il faut corriger du Covid,
et après,
le débat, de la température.
Et c'est imparfait, mais c'est infini. Étant donné les montants en jeu, pour remettre en perspective, 50 milliards sur un an, c'est l'équivalent de France 2030, qui est l'investissement qu'on veut faire sur 10 ans. Donc on peut dire que c'est imparfait, etc. Mais les enjeux sont tellement importants. Et il me semble que la limite, elle est, la vraie contrainte, elle n'est pas technique, mais elle est plutôt politique. Puisque cibler, ça va du coup forcément laisser certains ménages de côté. L'électorat de certains partis est peut-être parmi ces ménages-là. Il faut savoir rassembler à l'Assemblée nationale pour faire... Il me semble que la vraie contrainte, elle est là, plutôt que sur l'aspect technique.
Mais d'ailleurs, il y a un élément de cette étude qui souligne qu'il y a quand même, une zone de perdants. C'est-à-dire ceux qui, aujourd'hui, les plus modestes, ont droit au bouclier tarifaire plus des aides supplémentaires comme le chèque énergie. Ceux qui gagnent un tout petit peu plus, qui ne sont pas éligibles justement à ces aides additionnelles, c'est le début de la classe moyenne qui bosse, qui paye des impôts et qui a l'impression de ne jamais rien toucher. Politiquement, c'est très mal vécu.
Après, en ciblant, vous pouvez aussi aider davantage ceux qui sont vraiment dans le besoin. Et le meilleur exemple, là, c'est plutôt le chèque, la partie carburant remise à la pompe, avec les annonces d'Elisabeth Borne sur le fait que ce soit maintenant davantage ciblé sur les gros rouleurs
qui
doivent prendre leur voiture pour aller travailler. Et ça, c'est très important.
L'histoire des non-recours aussi, parce qu'a priori, il va falloir s'inscrire sur le site de la DGFiP. Avec ses revenus, son numéro de carte grise, eh ben, on verra ce qu'ils font et ce qu'ils ne font pas. Quelque chose à ajouter là-dessus ? On a fait le tour, je crois, de l'histoire. C'est intéressant d'avoir cette étude. On sait faire des contrefactuels ? On serait capable de dire où en serions-nous si nous n'avions pas ? C'est possible, ça ?
C'est notre métier, oui.
De fait, c'est l'exercice qui a été fait. Lorsqu'il est dit que 1,7% de gains de croissance, 1,6% sur la consommation, c'est effectivement des tentatives. Alors, effectivement, il y a des très, très larges marges d'incertitude, mais chaque modèle obtient un scénario médian. D'ailleurs, c'est bien qu'il y ait plutôt plusieurs modèles concurrents pour essayer d'avoir un portrait peut-être plus fidèle de ce que pourrait être un contrefactuel.
Parce qu'il y a deux manières de faire des contrefactuels. Une approche vraiment empirique, où on regardera directement ce qui s'est passé. Dans ce cas-là, c'est pas possible parce que c'est trop macroéconomique comme changement. Donc c'est basé sur un modèle. Et là, ce qui compte, c'est en fait de s'accorder sur le mécanisme économique qui, on pense, est le mécanisme principal qui est à l'œuvre. Et de ce que je comprends de l'étude, sur la base des éléments disponibles, c'est que l'idée générale, là, c'est vraiment du point de vue de la demande. Grâce au bouclier tarifaire, on a redistribué vers les ménages, on a augmenté la demande. Et à nouveau, dans la période actuelle, est-ce que vraiment augmenter la demande, c'est une bonne chose pour le PIB plutôt que pour l'inflation ? Je pense que ça se discute. Donc pour moi, ce serait ça le point à discuter.
Là-dessus, avant de marquer une pause, effectivement, on a fait le choix de la demande après le premier choc pétrolier, après le deuxième choc pétrolier, on fait le choix de la demande systématiquement. Alors on a un effet vertueux et à peu près éphémère, mais est-ce que c'est le bon choix, Philippe Asquenazi ? On faut aller droit au but parce que.
Non, mais le droit au but, si on n'avait pas des millions de pauvres en France, on pourrait être d'accord sur le fait qu'on ne va pas essayer de soutenir au moins pour l'ensemble de cette population.
Mais là, on redistribue
leur consommation.
On parle d'un soutien à la demande quasi généralisée.
Oui, mais
je vais vous rassurer, ce qui a monté en 2023, c'est le soutien aux entreprises aussi.
Voilà.
Qui est un peu l'angle mort pour l'instant de la politique. Et là, qui est en cours d'instruction. Et là, vis-à-vis des entreprises, on peut être un peu plus sophistiqué comme des outils, parce que notamment les entreprises au-delà de 50 salariés ont des structures d'administration, des comptables, ils comprennent un peu plus les dispositifs publics. Donc là, ce qui est en cours d'élaboration, c'est trouver une manière d'aider les entreprises, pas seulement les électro-intensifs, pas seulement les gazo-intensifs, des entreprises plus loin dans la chaîne de valeur, sans dépenser trop d'argent et en passant ce choc énergétique pour éviter les vagues de faillite au moment où on doit rembourser les PGE. Donc il y a le solde de la crise Covid qui se cumule à la crise énergétique.
On va en parler tout à l'heure parce que les industriels, surtout les industriels, sont très inquiets. Là, on a des appels qui se multiplient encore ce matin sur l'antenne de BFM Business dans le secteur de l'immobilier en disant que les montants annoncés pour le bouclier tarifaire entreprise en 2023 sont totalement insuffisants et notamment l'inquiétude des industriels en France et en Allemagne devant ce que les Américains sont en train de faire. Alors certains diront que c'est du protectionnisme. Ça y ressemble. En tout cas, le texte anti-inflation adopté l'été dernier aux États-Unis est quand même une vraie préoccupation maintenant en Europe. On marque une pause. Dans un instant, je vous ferai réagir à Elisabeth Borne, justement, qui veut accélérer France 2030. C'était pas inintéressant de mettre en parallèle ce que coûte le bouclier 2023 par rapport à ce que France 2030 représente en termes de relance de l'activité française sur une dizaine d'années. À tout de suite.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Philippe Askenazy, économiste au CNRS, qui a publié « Partager les richesses » chez Odile Jacob. Xavier Jaravel, professeur à la London School of Economics. Xavier Rago, président de l'OFCE, auteur de « Civiliser le capitalisme » chez Fayard. J'ai un auditeur qui s'appelle Julien qui dit « L'OFCE est indispensable à votre plateau. Objectif rationnel mesuré, super intéressant. Oui. » Alors j'en ai aussi certains...
Ça doit être un collègue.
Non, je ne sais pas. Je vais être honnête. J'en ai aussi certains qui me disent « ça suffit l'OFCE » parce que c'est vrai qu'il y a Xavier Rago, il y a Xavier Thimbault, il y a Eric Heyer, il y a Mathieu Plane qui viennent assez régulièrement dans cette émission. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre comme réaction ? La réaction de Titi Gentil. Une alternative simple et plus efficace, on parle de bouclier tarifaire, assurer un revenu minimum à la population la plus défavorisée. Voilà. Oui, mais... Et là, on supprime toutes les autres aides, on laisse les Français optimiser en fonction des contraintes prix.
Ça, c'est l'idéologie d'avant. Malheureusement, si on fait ça, on massacre la classe moyenne inférieure. C'est l'effet de seuil. C'est qui la population défavorisée ? Voilà.
C'est
notre problème sur lequel on bute. C'est qu'il n'y a pas que la pauvreté maintenant. La classe moyenne, vous avez cité les effets de seuil. On a vu dans le système socio-fiscal français, il y a la classe moyenne inférieure, décile 3-4. C'est des gens qui sont un peu au-dessus, peut-être même parfois du salaire moyen. Ceux-là, il ne faut pas les oublier.
Mais vous savez qu'à chaque fois que je fais des chroniques où j'annonce une nouvelle aide, chaque fois, j'ai des quantités de tweets. J'avais un jour ouvert l'émission avec tous ces gens qui me disaient tous la même chose. J'en ai marre de bosser et de payer pour les autres et de jamais rien toucher. C'est ces gens-là dont vous parlez. Hein. Voilà. Les gens qui sont un peu en dessous du salaire moyen, sont allés à 1009, 2000 par mois.
Ils perçoivent aussi. Donc je ne m'associerai pas à cette radicalité du discours. Bon. Mais il y a un vrai sujet politique. Il y a quelque chose, effectivement, il touche moins que les autres.
J'avais mis dans ma petite liste que j'envoie à 7h45 à mes invités, là, mon SMS fleuve chaque matin, j'avais mis qu'Elisabeth Borne veut accélérer France 2030, Xavier Jaravel. Elle veut que 20 milliards sur les 54 milliards soient engagés dès 2023. Mmh. Et ça vous fait réagir.
Oui, juste pour rappeler que donc France 2030, c'est sur environ 10 ans. Mmh. C'est une enveloppe de 50 milliards qui avait été décidée il y a environ un an. Donc là, c'est le premier anniversaire des dispositifs. C'est un plan ambitieux et en même temps assez faible en termes de montant par rapport à l'aide aux ménages. Donc je trouve ça intéressant de garder ce sens des proportions. Ce qui est intéressant dans l'idée d'accélérer, c'est toute la partie qu'ils appellent talent dans la partie France 2030, c'est-à-dire formation pour telle et telle filière d'avenir. Et puis il y a des éléments liés au nucléaire. Et donc c'est une partie du plan qui semble particulièrement importante dans la période actuelle de tension sur le marché du travail. Un élément aussi qui frappe sur le plan, c'est du point de vue de l'évaluation et en fait du manque d'évaluation in itinéré. C'est-à-dire que au bout d'un an, on a donc fait plusieurs appels à projets. Mmh. Et donc on aurait pu se dire, on va tester ce qui marche, ce qui marche pas, et ensuite redéployer les crédits ou les modalités d'intervention vers ce qui marche le mieux. D'autres pays le font. Dans France 2030, par exemple, il y a beaucoup d'interventions sur les sujets liés au changement climatique. Et aux États-Unis, ça a été fait dans la crise de 2008. Un peu la même idée. On fait un plan d'investissement pendant une crise. Et ils ont fait cette évaluation in itinéré. Et ils ont vu des choses assez simples. Par exemple, intervenir beaucoup plus tôt dans le cycle de vie d'un projet sur des questions liées à des prototypes où le secteur privé peut pas apporter des financements. Ça a un effet d'entraînement important. C'était difficile d'en être convaincu a priori, mais au fur et à mesure, ils ont fait l'analyse. En l'occurrence, c'était avec des universitaires de l'Université de New York. Et ensuite, ils ont décidé d'arrêter d'autres parties qui étaient trop tard dans le cycle de vie d'un projet, pas utile.
Ça semble rationnel.
C'est quelque chose qu'on ne fait
pas. On va continuer ce qui fonctionne et arrêter ce qui ne fonctionne pas.
Mais en fait, il faut vraiment le mesurer in itinéré. C'est quelque chose qu'on ne fait pas. Nous, on a des indicateurs de suivi, des grands objectifs, par exemple, faire le premier avion bas carbone, ce qui est important aussi en termes de se fixer une ambition et rassembler toutes les forces vives pour atteindre ces grands objectifs. Mais il y a cet aspect in itinéré qui est très important et pour l'instant un peu absent.
Considérez qu'on est hors des clous Enfin, je ne sais pas là, si vous voulez réagir.
En termes de montant ?
Mais non. En termes de montant, il y a un chiffre qui m'a frappé. On a, sur le quinquennat précédent, on a quand même consommé 40 milliards d'euros pour supprimer la taxe d'habitation. Et on a mis 1 milliard d'euros sur l'investissement dans l'intelligence artificielle. C'est vrai qu'il y a parfois quand même des montants, quand on compare même à des grandes multinationales comme, je ne sais pas, Samsung. On est quand même là, effectivement, sur les montants, le compte n'y est pas. Et puis c'est vrai que c'est peut-être incapacité à décider de continuer ce qui fonctionne et arrêter ce qui ne fonctionne pas. Je sais pas, Xavier Rago, allez-y.
Moi, France 2030, je pense que l'ambition était intéressante, les montants sont faibles quand même. Les montants sont faibles et je pense que c'est un plan qui a plusieurs composantes et notamment une composante formation qui est intéressant, mais c'est, ce dont il faut réfléchir, c'est tout le système de formation et d'éducation français. On peut pas mettre avoir ok la formation technique, la formation tout au long de la vie, la formation initiale. Enfin, réfléchir à une projection globale en modisant tous les outils. Là, finalement, il y a quelque chose qui est la France 2030. C'est ambitieux, France 2030. Bah, finalement, ça semble un petit silo de l'action publique. Et il y a d'autres politiques qui sont un peu différentes, qui manquent de coordination. Je trouve que ce plan est intéressant, mais il faut être encore plus ambitieux sur la coordination de tous les outils publics pour se projeter, notamment sa formation, ouais, à l'horizon 10 ans. Et avoir vraiment une réflexion sur articuler ça à la rémunération des enseignants, l'attractivité du métier, la qualification de certains métiers techniques à la fin. Bon, ça manque un peu d'ambition, tout ça, me semble-t-il, même si la direction est la bonne. Et le second point dont je voulais dire, c'est que ce qui manque aussi, c'est vraiment, dans le débat public, une projection à 10 ans. Quelles sont les institutions aujourd'hui qui permettent vraiment de réfléchir à une réflexion dans 10 ans sur la structure du marché du travail, les qualifications, le métier d'enseignant, enfin, et vraiment qu'une structure de coordination projetant à 10 ans. On a l'impression, quand on voit, qu'on lit les budgets, qu'il y a des petits montants à 10 ans et il y a des énormes montants qui gèrent les crises après crise. Le Covid.
Mais là où je suis, là où je rejoins Xavier Jarabel,
on a un déficit d'horizon dans l'action publique.
C'est que il y a toujours un effet d'annonce politique et généralement, justement, d'abord les études d'impact manquent assez régulièrement quand on engage des réformes, quand on engage des actions publiques. On fait les effets d'annonce et derrière on se rend compte que le bilan est généralement à l'arrivée assez décevant. Il y avait les investissements d'avenir de Nicolas Sarkozy. Quand on a essayé de regarder un peu ce que ça avait donné, c'est vrai qu'on c'est pas forcément réjouissant.
Vous voulez rajouter quelque chose rapidement, monsieur, sur le premier point, juste pour bien rappeler que l'idée de France 2030, c'est de lancer des dispositifs qui sont vus comme expérimentaux. C'est un peu des sortes de poches d'argent qui sont assez largement fléchées vers des grands thèmes, mais qui sont assez ouvertes sur le détail des interventions. Et donc, l'idée, c'est d'expérimenter. Normalement, il faudrait pouvoir évaluer pour trouver ce qui marche vraiment bien. C'est pour ça que je trouve que c'est un point qui est assez essentiel vu l'esprit du plan. Mais l'idée, c'est on expérimente, on voit ce qui marche et ensuite, normalement, on intègre ça dans le budget de l'éducation nationale, enseignement supérieur et recherche, si on identifie quelque chose qui marche. Mais cela dit, tout à fait d'accord pour dire que idéalement, France 2030 aurait aussi une fonction de prospective, qui normalement est celle de France Stratégie, de la DARES sur les métiers en tension que tu évoquais, mais qui globalement est quelque chose qu'on fait infiniment moins que la gestion des crises.
C'est bien Bruno Bonnel qui gère ça maintenant, je crois. Oui. Bruno Bonnel a été chef d'entreprise. On peut imaginer qu'il a gardé quelques réflexes qui ne correspondent pas aux traditionnels réflexes des agents, enfin des hauts fonctionnaires. Là-dessus, Philippe Ascanasi, vous voulez rajouter quelque chose ? Après, on parle de la Grande-Bretagne.
Oui, alors je pense que l'évaluation est quelque chose qui est tout à fait utile. Il faut surtout que par derrière la puissance publique tiennent compte de ces évaluations. Or, c'est plutôt ça qui me frappe. C'est-à-dire qu'on a très nombreux dispositifs en France, notamment sur les questions d'innovation, qui ne donnent pas lieu à des changements politiques.
C'est très, très vrai.
Il est clair que, par exemple, aujourd'hui, que le crédit d'impôt recherche, qui, lorsqu'on somme depuis le début du siècle, ça représente, allez, disons, 150 milliards d'euros que l'État a eu de moins en moins de recettes fiscales pour un impact sur la recherche et développement en France qui est loin d'être démontré. Donc, je pense que... Et on a eu toute une série de travaux qui ont montré, c'est faible, mais on n'a pas changé le dispositif. Donc, je pense que, en premier lieu, c'est ça, il faut quand même s'interroger pourquoi on met couche sur couche sans, finalement, remettre en cause des couches précédentes. Et donc, moi, je rejoins tout à fait ce que dit Xavier Rago, il faut peut-être remettre à plat à la fois des aspects de dispositifs fiscaux, aussi des questionnements de formation, ça c'est très clair. Il y a beaucoup de sommes dépensées aujourd'hui sans efficacité, eh bien, il faut très probablement un plan global. Et alors, effectivement, on aurait peut-être besoin d'un commissariat au plan, un vrai plan, en quelque sorte, pour mettre...
On a déjà un conseil national de la refondation.
Puis on a un commissaire...
Et on a un commissaire au plan aussi. Un haut commissaire au plan.
Vous l'avez beaucoup entendu parler de planification.
Mais non, mais il est tellement haut, d'ailleurs, qu'il sort des écrans radars, personne ne le voit.
Voilà. Peut-être.
Tellement haut commissaire.
On peut en parler, il y a un vrai sujet de l'efficacité.
Mais il y a aussi, vous avez évoqué, moi je suis très très sensible à la question de l'école, la formation initiale. Il n'y a pas qu'une histoire de milliards dans ce qu'il faudrait faire. Quand vous regardez tous les éléments qui caractérisent les pays les mieux classés dans PISA, c'est pas forcément des questions d'argent. Simplement, par contre, ce sont des changements et des mouvements à opérer qui serait socialement très très difficile à faire accepter en France, notamment à... Vous n'avez pas l'air d'accord.
Non, mais regardez, par exemple...
Si je commence à vous dire qu'on met de l'autonomie partout, qu'on paye au mérite, qu'on peut virer les profs quand ils ne sont pas bons et qu'on choisit ceux qu'on recrute...
Là aussi, enfin, lorsqu'on regarde les travaux à l'international, ils sont assez partagés finalement sur ces éléments-là. En revanche, par exemple, l'enseignement des maths au lycée, on a fait... lorsqu'on dit on fait réforme, on a laissé Jean-Michel Blanquer faire cette réforme-là, alors même que l'ensemble des travaux que l'on a en sens de l'éducation et licence associée montraient qu'il faut des maths au lycée. On est revenu quand même par une pression sociale et non pas par des évaluations, etc. Donc, en fait, même, je dirais, on est plutôt même dans une situation où on accumule les erreurs plutôt que de chercher même des améliorations. Donc, moi, ce qui me fait peur, c'est qu'on fait des changements, mais qui ne vont pas nécessairement dans la bonne direction.
Je dois reconnaître que, je ne suis pas un spécialiste de l'éducation nationale, mais j'ai l'impression que c'est la réforme permanente à l'éducation nationale. Oui. Et que pourtant, malheureusement, les choses n'évoluent pas forcément dans le bon sens. Souvent, on dit, on utilise un peu à tort et à travers le mot austérité. J'entends encore des gens qui m'écrivent sur la France, c'est l'austérité. L'austérité, avec 155 milliards de déficit en 2023, 270 milliards d'émissions de dettes neuves et anciennes pour refinancer l'ancienne. Les Britanniques, visiblement, Xavier Jarabel, ils y vont. Hein. C'est plus du tout du Listruss, c'est de l'anti-Listruss. Là, cette fois-ci, on serre la vis. Ils ont eu très très chaud quand même, là, il y a un mois. Et quand ils ont vu que les fonds de pension risquaient d'aller au tapis et qu'il a fallu que la Banque d'Angleterre, en catastrophe, sur une période courte, sorte 65 milliards de livres de rachat d'obligations pour éviter que tout ne s'écroule, c'est quand même une situation... Et là, on n'est pas dans un pays pauvre, on est quand même dans un pays du G7. Là, 54 milliards de consolidation budgétaire.
Mm-hmm. Oui, donc qu'est-ce qui s'est passé?
C'est ça l'austérité.
Voilà, qu'est-ce que ça peut nous dire sur notre situation en France? Donc c'est donc les annonces faites d'hier de Rishi Sunak. Donc une cinquantaine de milliards ou je crois 60 milliards de restrictions budgétaires et c'est réparti à 50-50 entre hausse d'impôts et baisse de la dépense. Les hausses d'impôts, c'est notamment sur tout ce qui a trait aux revenus du capital et aussi une hausse des impôts du travail pour les plus hauts revenus. Donc qu'on peut aussi dire être quelque chose de souhaitable du point de vue de la réduction des inégalités, notamment s'agissant de la taxation des revenus du capital. Donc ça, c'est un premier volet. Et s'agissant de la dépense, c'est pas une baisse des dépenses indiscriminée. En fait, d'ailleurs, une hausse des dépenses prévues s'agissant de l'éducation, s'agissant de la santé. Pour l'instant, le package général dit qu'il s'agit en fait de rendre la dépense plus efficace, qui est un peu la manière habituelle de présenter les choses, à voir du coup si ce sera possible, dire on va optimiser tel ou tel processus. Mais donc c'est difficile pour l'instant de vraiment voir là où il y aura de grosses coupes. Et la crainte, c'est qu'il y ait in fine des coupes assez indiscriminées. Mais l'annonce de base, c'est qu'il y a deux priorités, éducation-santé, et le reste, c'est beaucoup sur l'efficacité de la dépense. Ce qui est intéressant, c'est que la Grande-Bretagne, en termes de dette, est plutôt mieux positionnée que nous. Nous sommes 100% de ratio dette sur PIB. Nous, on est à 111, 113. L'Allemagne à 67%. Et en fait, ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, c'est l'arrivée de Listruss. On a beaucoup parlé des annonces de Listruss qui faisait une sorte de grande relance de fête budgétaire avec une baisse d'impôts sur les plus riches. Et en fait, juste avant cette annonce-là, il y avait eu le bouclier tarifaire qui était beaucoup plus coûteux. Il avait été annoncé 2-3 semaines avant pour la Grande-Bretagne.
Limité à 2500 livres, je crois, la facture.
Et après ça, et avant les annonces de baisse d'impôts, en fait, c'est la Banque d'Angleterre qui a tiré la sonnette d'alarme et dit qu'elle allait moins intervenir sur les marchés. Et donc, de fait, il y avait un risque de hausse des taux. Et donc, en fait, la Banque d'Angleterre et sa décision de restreindre sa politique a joué un rôle vraiment essentiel, peut-être plus encore que les annonces de baisse d'impôts de Listruss. Et donc, c'est pour ça que ça montre bien qu'il y a un impératif à être vigilant sur les dépenses publiques, à bien les cibler. Ça nous ramène au sujet du bouclier tarifaire dans ce contexte inflationniste. Et donc, on verra, s'agissant de la Grande-Bretagne, ce qu'il advient. Il y a beaucoup d'autres sujet en Grande-Bretagne avec le Brexit, grosse dépendance au gaz, donc des taux d'inflation élevés. Il y a une lecture optimiste de cette décision qui est de dire que il n'y a pas le choix dans la situation actuelle, remonter des taux, il faut faire des choix budgétaires, ils essayent de choisir les bonnes priorités, éducation, santé, réduction des inégalités avec les revenus du capital.
Qu'est-ce que vous en pensez, Philippe Ascanavi, Xavier Rago? Est-ce que c'est finalement c'est un cas d'école de ce qui pourrait nous arriver? Faut à un moment, faut ouvrir les yeux. Alors nous, on est protégés par l'euro, mais encore. Et là, ça, c'est de l'austérité, de la vraie.
Oui, enfin.
Alors, ou Xavier Rago, oui. Un peu plus près du micro, Xavier.
Alors, un cas d'école d'erreur économique du premier ordre. C'est assez impressionnant.
Ah, mais ça, d'accord. Ça. Mais le premier ordre, c'était Listros.
Oui, c'est Listros. D'accord, okay. Non, mais c'est ça le problème.
Il y a aussi la Banque d'Angleterre.
Alors, la Banque d'Angleterre, il y a la Banque d'Angleterre, il y a les institutions de stabilité financière qui sont intervenues pour aider. Donc, c'est une conjonction d'une mauvaise macroéconomie, orientation politique économique, qui a conduit un grand pays à une impasse assez exceptionnelle. Et c'est le même parti, le parti conservateur, qui envoie une Listros qui fait une baisse d'impôts sur les plus riches. Le pays est quasiment au bord de la faillite internationale.
Ah bah oui.
Et deux semaines après, le même parti envoie Rishi Sunak qui fait une hausse d'impôts sur les plus riches sans élection entre-temps. Donc on est quand même, c'est ça que je retiens, c'est que nos économies, les économies capitalistes soumises à un tel choc, on revient aux fondamentaux de l'orientation de la politique économique pour sauver les pays, comme l'Angleterre, qu'on disait le pays modéré, le pays du dialogue, et d'un pragmatisme libéral. Là, le passage de Liz Truss à Rishi Sunak montre peut-être deux extrêmes. Je ne suis pas convaincu. Bien sûr, il faudra consolider le budget de l'Angleterre, mais le montant des mesures, moi, mon pari, c'est qu'ils ne seront pas capables de faire les mesures qu'ils ont citées. C'est trop important. C'est trop important. Oui.
C'était pas possible dans un sens et ça l'est pas non plus dans l'autre.
J'espère que l'entièreté de ces mesures va pas être mise en œuvre. Souvent, il y a des effets signaux, on annonce des mesures.
Oui, il y a aussi.
Et c'est le cas aussi pour l'Allemagne. Il y a 200 milliards d'aides, ils vont pas les dépenser.
Oui, donc c'est pas possible.
Je pense que l'effet récessif sur la population anglaise qui subit déjà le choc inflationniste importé va être grave, alors qu'il y a un peu plus de marge budgétaire, ce qu'a rappelé Xavier Ravel. Ils ont quand même une dette sur PIB légèrement inférieure. Donc je pense que le pays, ce qu'on ne voit pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui ça paraît un truc de sérieux budgétaire, mais les conséquences en termes de baisse du niveau de vie des ménages anglais, qui perdent 10 années de pouvoir d'achat, et là les anticipations du pouvoir d'achat sont inférieures à celles de 2013. C'est un choc colossal de pouvoir d'achat négatif qu'ils n'ont jamais connu depuis l'après-guerre. Là, ce n'est pas encore dans la réalité des porte-monnaies des ménages anglais. Je pense que ça va tanguer très, très, de manière très, très importante dans quelques mois. Je pense qu'ils vont un peu trop loin pour contrebalancer l'erreur économique de Liz Truss. Donc j'espère qu'ils feront la moitié du chemin pour nos amis anglais. Oui, il faut stabiliser les comptes, mais pas cette mesure.
D'accord.
Nous, Européens, nous avons appris dans la crise des dettes publiques 2012. Si on va trop vite, trop fort, on casse la croissance,
c'est
on
vrai.
Fait augmenter.
Il faut reconnaître que c'est vrai.
Donc qu'ils reviennent un peu de pragmatisme après l'extrême de Liz Truss.
Mais le sujet social en Grande-Bretagne est tout à fait fascinant. Moi, j'ai vu des chiffres. Il y a un ménage sur deux qui préfère finalement manger des plats préparés parce que ça évite d'allumer la gazinière, par exemple. Je ne sais plus combien ne font plus qu'un seul repas par jour. C'est quand même assez surprenant. Vous voulez ajouter quelque chose, Philippe Escanasi? Parce qu'après, je vais vous entendre sur les retraites.
Oui, mais je pense que c'est important. Voilà, le cas britannique et le cas français sont quand même assez différents hein, d'un point de vue institutionnel. Et il y a quand même un fait, c'est les annonces de baisse massive des impôts qui ont casser une partie de la crédibilité britannique. Je pense que la France, justement, enfin, ça peut vous paraître paradoxal, mais le fait que la France soit un pays qui fasse rentrer des impôts lui donne une crédibilité financière. Voilà.
C'est la raison numéro un de la confiance que l'on a et de l'appétit que l'on a dans les obligations françaises.
Et je pense que le signal que donnait Liz Truss, c'est même dans une situation difficile budgétaire, etc., parce que par idéologie politique, on ne va plus faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État, était un signal absolument catastrophique d'un point de vue de politique monétaire. Et le second point, c'est que quand même dans cette mécanique où il y a eu une sorte d'emballement et de panique, par derrière, il y avait le fait qu'il y avait des fonds de pension britanniques. Alors c'est un petit peu difficile à expliquer, mais lorsque les taux sont bas, ces fonds de pension utilisent des outils qui sont rémunérateurs avec des taux bas, et lorsque les taux augmentent, ils changent de type d'outil. Et donc lorsque il y a eu ce run, les taux sont envolés, ils ont dû changer d'outil en urgence, ce qui a encore plus renforcé l'effondrement de la livre et l'augmentation des taux d'intérêt. Donc il y a aussi une fragilité qui vient même du fait qu'ils ont un système de pension qui repose beaucoup sur ces fonds de pension privés, qui est un autre élément
de fragilité. Le message, c'est arros sur la capitalisation pour les retraites.
Non, c'est pire ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on a ce type d'outils, il faut faire très très attention au type de politique que l'on mène. Et ça me demande également une coordination avec la Banque centrale. Et c'est aussi une des faillites britanniques, c'est que la Banque centrale avait pas été dit-elle en tout cas, mise au courant des annonces qu'allait faire Liz Truss, donc il n'y avait pas du tout de coordination. Donc, simplement, le signal, c'est que lorsqu'on crée un système de cet ordre-là, eh bien, il faut une politique responsable, oui. Ça demande des éléments de coordination, et les Britanniques, eh bien, c'est quand même une faillite politique, bien plus qu'une faillite, finalement, de la Grande-Bretagne, et effectivement, ceux qui vont payer au bout du bout, ce sont les citoyens britanniques, parce que ce que l'Office of Business Responsibility, les chiffres qu'ils ont sortis sont absolument dramatiques.
Ah, c'est Ken Loach,
sur le...
c'est Ken Loach.
Ah, mais totalement, oui. Sur...
non, mais c'est vrai.
Mais cela sur plusieurs années, c'est pas un choc 2023, c'est vraiment un choc de long terme sur les Britanniques.
C'est Larry Summers qui avait dit, enfin, il avait eu cette, après les annonces de Liz Truss, il avait parlé de la plus grave erreur de politique économique de l'histoire, quand même. Dans les 24 heures qui avaient suivi les annonces.
Ça, c'est important pour nos éditeurs. Hein, ici. On peut faire des grosses bêtises par idéologie.
Ah oui, oui.
Un peu d'économie, ça aide.
Je ne suis pas sûr que les 35 heures, on le referait, par exemple.
Je ne dis rien là-dessus.
Ça, c'est autre chose.
Ouais, voilà. Et bien placé, encore... monsieur Nicolas Dose.
Franchement,
c'est tout à fait autre
franchement, chose. Je pense que François Mitterrand, quand il abaisse de 65 à 60 ans l'âge de départ de la retraite, c'est plus un choix politique qu'une logique purement économique. Bon.
Peut-être juste pour dire un mot, parce qu'on évoquait.
C'est très bien, ça fait la transition.
Oui, oui, c'est
parfait. Juste pour dire, parce qu'on évoquait l'OBR, l'Office of Budget Responsibility, qui donc fait ses projections. Ouais. Et juste pour, parce que ça rejoint un peu ce que disait Philippe Escanasi au début, sur le fait qu'en France, le Parlement n'a pas vraiment d'outils pour faire ses projections.
Il l'a dit gentiment, mais enfin, ouais. Il a dit quand même qu'on était mauvais.
Le système anglais, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont cet institut qui est à mi-chemin entre l'exécutif et le Parlement. Et ils ont accès à toutes les ressources internes des administrations, donc ils peuvent vraiment faire des prédictions très solides. Et du coup, la situation actuelle n'est pas rose, c'est le moins qu'on puisse dire. En France, personne n'est vraiment dans une situation comme ça où on y a accès à toutes les infos et en étant indépendant et en pouvant faire ce type de projection. Et donc ça, c'est un autre enjeu qui semble important. Et donc oui, il y a eu des erreurs de politique économique, mais à nouveau, j'insiste sur le fait qu'il y a eu la décision de la Banque d'Angleterre qui peut-être...
Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je voudrais insister là-dessus, Xavier.
C'est la remontée des taux.
Vous avez tout à fait raison, mais... C'est fini l'indépendance des banques centrales, c'est ça que ça veut dire. Parce que normalement, je suis désolé, l'exécutif n'a pas envoyé son budget à la banque centrale avant. L'institution est faite justement pour cloisonner.
Mais précisément,
là on voit l'échec de ce cloisonnement. De facto, sans le dire, on sera obligé de dire à la banque centrale, maintenant, tu as une gestion sur la stabilité du marché de la dette publique.
Ou l'inverse.
Assurer la liquidité de la dette publique.
Ça, c'est la version
BCE. Sortir de paradigme.
Ça, c'est peut-être la version BCE. Ou alors, on peut voir les choses à l'inverse et dire, c'est un exemple qui montre que c'est la fin de la dominance fiscale. La Banque d'Angleterre a pris ses responsabilités, elle a décidé d'augmenter les taux. De telle manière que ça a forcé un changement à presque à 180 degrés de la politique budgétaire britannique.
Effectivement, il faudra choisir les modèles.
Et la BCE est dans une autre situation avec le problème de la dette italienne, le swap avec la dette allemande. Et donc c'est pour ça qu'on peut voir cette situation comme un signe avant-coureur de problèmes qui peuvent nous arriver, même si on ne fait pas d'erreur.
Avec une austérité inédite dans l'après-guerre sur les citoyens anglais comme conséquence de ce paradigme qui me semble qui ne va pas tenir socialement.
Il y a des économistes aujourd'hui qui défendent l'idée que finalement les banques centrales reviennent à leur mission initiale d'il y a plusieurs siècles, qui est plutôt le financement des États plus que le contrôle exclusif de la stabilité des prix. Vous connaissez Jean-Marc Daniel, c'est bien une position qu'il défend.
Ah bon ? Ah bah tiens.
Oui.
À l'inverse.
Ah mais. Ouais. Alors je sais pas, j'ai un auditeur qui dit qu'aujourd'hui mon plateau est d'extrême gauche. Pour exagérer. Voilà. Alors du coup, bon. Il s'appelle Claire. Ah oui, alors c'est sa photo de profil, c'est Éric Zemmour. Bon. les retraites, on va dire un mot des retraites. Je ne sais pas si on pourra parler de l'Inflation Reduction Act. On n'a pas beaucoup d'infos. On sait que c'est l'été 2023, Philippe Askenazi. En fait, les trois choses que l'on sait, c'est que la retraite minimum sera supérieure à 1100 euros, probablement 1130 euros. On sait que les fonctionnaires sont épargnés. Ça a été très clairement dit. Et qu'on fera la clause du grand-père pour éteindre les régimes spéciaux. Ça veut dire que seuls les nouveaux embauchés auront un régime plus classique, mais que tous ceux qui aujourd'hui sont sous statut le garderont définitivement. Ça vous inspire quoi ?
Juste quand même un mot, les fonctionnaires épargnés, non, les négociations sont en cours actuellement entre les partenaires sociaux et le gouvernement, et très probablement, de la même manière qu'il va y avoir un report peut-être de 2 ou 3 ans de l'âge de départ légal à la retraite pour le secteur privé, il va y avoir la même chose dans le secteur public. Donc là où il est épargné en quelque sorte, c'est que on restera avec un système public à côté du secteur du système privé. Mais ils viennent sortir.
C'est souhaitable d'ailleurs, je pense.
Ils viennent sortir un dossier de l'adresse extrêmement précis.
J'ai vu ça, oui.
Voilà, qui montre que finalement les deux systèmes sont à peu près équivalents et que surtout si on basculait le système public vers le système privé, qu'est-ce qui se passerait pour, enfin, vraiment à la hache, les hauts fonctionnaires gagneraient et les profs perdraient massivement. Je pense que c'est pas dans le pacte social de la fonction publique quelque chose d'acceptable. Donc, on va avoir certainement encore deux systèmes parallèles, mais les deux vont subir de manière directe ce report de départ, de l'âge de départ à la retraite, ce qui signifie, par exemple, pour un fonctionnaire comme moi dans au CNRS, un âge de départ normal à la retraite de 71 ans. Donc, on aura le temps d'être...
Comment ça, 71 ans?
Ben oui, parce que c'est 68 ans actuellement. Vous avez des gros écarts selon les types de professions. Et puis, un point quand même, tout à l'heure, vous parliez de ces classes moyennes, inférieures, là, qui ne touchent pas, etc. Or, il se trouve
que... qui payent des impôts et qui n'ont rien.
Eh bien, lorsque vous regardez, il y a une sur-représentation de cette population-là sur les 50-65 ans. Pourquoi ? Parce que ce sont ceux qui ont eu des carrières légèrement ascendantes et qui se retrouvent dans ce bloc-là, y compris parmi les fonctionnaires. Et c'est ceux-là qui vont être les plus touchés par la réforme des retraites. Donc, c'est, je crois, s'il s'agit d'un sujet essentiel, c'est celui-là, aujourd'hui, les 50-65 ans, qui ont voté, d'ailleurs, étonnamment, très majoritairement Macron, et qui vont être les premières victimes, entre guillemets, de cette politique-là. Et donc, on va avoir une nouvelle question sociale qui va émerger, à la fois pour les fonctionnaires et pour les agents du privé.
Mais ce qui énerve toujours, c'est cette retraite calculée sur les 6 derniers mois pour la fonction publique, quand ce sont les 25 meilleures années pour le secteur privé. C'est un peu le
sujet.
Si vous avez un mot, on a 50 secondes, si vous voulez dire un mot là-dessus, mais non, vraiment le mot de la fin, Xavier Rago.
Pour faire contredire votre le tweet qui dit que je suis dans le cadre d'extrême gauche. La question de la réforme des retraites, c'est une question qui se pose sur l'acceptation d'une augmentation des durées de cotisation par rapport à l'âge sur les professions. C'est une question légitime. Là, la façon dont est rentré par une augmentation de critères d'âge, c'était une mauvaise entrée qui a radicalisé. Si on prend du temps de réfléchir à quelle est la perspective de vie qu'on veut donner à nos enfants et les cotisations avec une espérance, il faut se donner le temps d'une vraie réforme. Il ne faut pas aller vite. Et cette question du débat, elle sera essentielle.
En tout cas, il a habilement, Olivier Dussopt, évité deux sujets dans l'interview qu'il a accordée. En tout cas, on ne lui a pas posé la question. Il n'est pas question de l'âge de départ à la retraite. Il n'est pas question non plus de la durée de cotisation. Voilà, comme ça. Bon, merci d'avoir été là, hein, Philippe Askenazy, Xavier Jaravel, Xavier Rago. Rendez-vous lundi, 9h.